Retrouvez le festival Les Embarqués les 15 et 16 juin au Parc de l'Hériposse en Normandie. Entre rêve et réalité, entre terre et eau, fêtez l'arrivée de l'été avec 2 jours de spectacles époustouflants. Théâtre, cirque, musique et danse, venez vivre le festival des Embarqués. Il vous entraînera au cœur de la nuit avec le spectacle pyrotechnique du célèbre groupe F et son ballet de drones. Spectacle ouvert à tous et gratuit. Tous les renseignements sur le site internet de l'agglomération Seine-Eure. Parking 5 euros.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Voilà le foyer de nouveau en morceaux. Le soldat est parti. Reviendra-t-il ? Chacun se pose la question sans se l'avouer. Rentrés au logis, les femmes recommencent à gravir le calvaire, la hantise de la lettre, l'angoisse du communiqué, la préoccupation du tricot, du colis, la pensée tendre, l'attente anxieuse, les idées noires.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le centenaire de la Première Guerre mondiale a été l'occasion de faire surgir d'une multitude de caves et de greniers, de divers lieux protégés par la piété familiale, les correspondances échangées entre le front et l'arrière, entre les soldats et leurs compagnes. Des matériaux sans prix pour une historiographie qui se tourne de plus en plus ardemment vers le vaste domaine, trop négligé jadis, de la sensibilité, des émotions, de l'intimité des vies individuelles. Ici s'impose, au premier rang, le destin des couples que l'éloignement, les défis matériels, la peur, la mort rôdant sans trêve rendaient tout à la fois intense et fragile. C'est à ces couples que Clémentine Vidal-Naquet, maîtresse de conférence à l'université Jules Verne de Picardie, a consacré un très beau livre qu'elle a sous-titré à bon escient « Le tragique et l'ordinaire du lien conjugal ». Elle montre, à hauteur d'une société tout entière, que la guerre, en séparant les couples, leur donne paradoxalement de ce fait même une visibilité nouvelle dans la société. Elle explique comment peut s'établir une sorte de normalité sociale dans une situation qui, par nature, est extraordinaire dans l'ordre du dramatique. Elle donne à comprendre comment tant de souffrances individuelles insondables, elle parle d'une catastrophe sentimentale, ont contribué peut-être, en définitive, à permettre à la nation collectivement de supporter l'insoutenable. Non sans que ne se révèle, parmi le puissant désordre collectif créé par le conflit, un dynamisme plus profond que celui de la guerre elle-même, vers un changement dans la pratique du mariage et parfois souvent confusément du rapport entre les sexes. Ajoutons que l'on éprouvera peut-être que l'émergence de 2 guerres qui sont sous nos yeux confère quelque actualité nouvelle et sombre au thème de cette émission. Et d'abord, nous écoutons Apollinaire.
Si je mourais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, au loup m'a bien aimé, et puis mon souvenir s'éteindrait, comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les vals, et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de baratier. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirai le bout de tes jolis seins roses. Je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point, toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleur, plus de vitesse à l'onde, un amour inouï descendrait sur le monde. L'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Lou, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour, et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur, et sois la plus heureuse étant la plus jolie, ô mon unique amour, et ma grande folie.
Clémentine Vidal-Naquet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez naturellement reconnu le très célèbre poème de Guillaume Apollinaire, « Si je mourais là-bas », daté du 30 janvier 1915. Il s'agit d'un des poèmes à Lou qui est ici lu par Jean-Louis Trintignant en 2004. Est-ce que vous diriez qu'il arrive que le poète parle plus juste encore que l'historien? Je ne veux pas être désobligeant.
Sans nul doute. Ceci dit, ce qui m'a intéressé dans la correspondance de Guillaume Apollinaire, c'était justement un peu l'inverse, c'est-à-dire c'était sa très grande banalité, puisque malgré la force poétique de ce qu'il écrit, eh bien, on perçoit des éléments qui sont communs à toutes les autres correspondances que j'ai pu lire et qui, dans ce poème-ci, par exemple, est l'anticipation de la mort par correspondance et la projection dans un après sans soi pour le combattant.
Correspondance, c'est au centre, évidemment, de votre ouvrage. Il dit quelque part, dans une lettre à un autre amour, à Madeleine, Apollinaire écrit « 15 jours, sans avoir la possibilité d'écrire et sans recevoir de lettres, pas moyen. Un mur, brusquement, entre la vie et moi, entre vous et moi. » C'est ce mur qui s'effondre, ou en tout cas qui disparaît lorsqu'on peut échanger des lettres.
Oui, c'est-à-dire que les correspondances échangées par les couples pendant le premier conflit mondial sont, il faut le préciser, des correspondances qui sont des lettres qui sont envoyées quotidiennement, parfois lorsque c'est possible, en tout cas de façon extrêmement régulière. Et l'objectif, c'est de faire perdurer ou de construire un lien qui, bien sûr, est mis à mal par la séparation et par la mobilisation générale, et donc par la séparation des couples.
Vous parlez d'un pacte épistolaire.
Je parle d'un pacte épistolaire parce que dans ces correspondances qui se nouent dès le mois d'août 1914, il y a une force de communication immédiate, comprise d'ailleurs par les autorités, puisque dès le mois d'août 14 est mise en place la franchise militaire qui permet en fait la gratuité entre le front et l'arrière, signe que l'importance conférée aux correspondances est comprise dès le mois d'août 14. Et ce lien, selon moi, est absolument fondamental pour comprendre aussi, ou en tout cas c'est un des éléments qui permet de comprendre la longue durée de ce conflit. C'est-à-dire qu'il faut bien, c'est un des grands mystères pour les historiens de la Grande Guerre, c'est de savoir pourquoi et comment est-ce qu'ils ont tenu, selon moi, la correspondance ici conjugale, mais on peut imaginer aussi les correspondances plus largement familiales, eh bien sont un des facteurs ou une des raisons qui permettent de comprendre que le conflit ait pu tenir ainsi si longtemps.
Peut-être doit-on d'entrée de jeu évoquer l'immensité du nombre de lettres qui ont été échangées. On dépasse assurément le milliard, plusieurs millions par jour.
Plusieurs millions par jour. Pour vous donner une idée plus précise, dans l'armée française seulement, en moyenne, et je dis bien c'est une moyenne sur la très longue durée de la guerre, eh bien c'est 1,8 million de lettres qui transitent tous les jours du front vers l'arrière et 3 à 4 millions de lettres qui transite de l'arrière vers le front, et ceci quotidiennement pendant toute la durée de la guerre. Donc on arrive évidemment à plus de 10 milliards de lettres échangées, et c'est une inflation du nombre de lettres qui n'avait pas été tout à fait prévue au départ, au moment de la mobilisation générale. Donc j'ai évoqué cette franchise militaire, mais en fait les grands problèmes au départ, c'est l'acheminement et la longueur de l'arrivée des lettres. Et ces problèmes d'acheminement sont importants puisque un des facteurs premiers ou une des raisons d'être première de la lettre, c'est d'être un gage de vie. Et que donc, évidemment, si la lettre n'arrive pas, cela peut plonger les familles et les femmes ici dans les plus grandes angoisses.
On peut dire qu'il y a une double temporalité. Il y a l'attente du retour, bien sûr, qui est de moyen terme, et puis l'attente de la lettre. Plusieurs passages de ces missives, précisément, sont consacrés au fait qu'on n'en reçoit pas assez ou qu'elles arrivent trop tard.
Oui, en fait, ce qui est très frappant lorsqu'on lit ces correspondances, c'est qu'une très grande partie de la page de la lettre, très matériellement, est consacrée à la comptabilité des lettres, aux dates d'arrivée, aux dates d'envoi. Et donc, en fait, c'est une correspondance dans la correspondance. Au lieu de se parler de son quotidien, chose que les épistoliers font également, bien sûr, eh bien, ils passent un très grand moment à mettre en place cette correspondance, puisqu'il faut rappeler aussi que face à, c'est une correspondance massive et que donc il y a beaucoup d'épistoliers qui écrivent pour la première fois et donc c'est aussi un apprentissage.
Les primo-écrivains, dites-vous.
Les primo-épistoliers ou les primo-écrivains qui apprennent tous les codes épistolaires qui normalement sont appris évidemment à l'école pour les rudiments mais qui doivent être réutilisés, la date, le lieu où l'on écrit, tous ces éléments-là qui font ou qui fabriquent la particularité de la correspondance et de la lettre.
Vous faites appel à des correspondances qui ont été en général publiées ou qui sont accessibles, mais il y aura une autre source qui est celle du contrôle postal, puisque dès le début de la guerre, les armées ont mis en place des commissions chargées de lire à peu près 1/20 des lettres vers l'intérieur et toutes les lettres vers l'étranger, en recopiant d'ailleurs des textes souvent, et c'est une autre manière d'accéder à ces lettres, pas seulement au contenu d'ailleurs, mais même à la forme, à l'orthographe, à la façon de s'exprimer.
Oui, vous avez raison. En fait, pour choisir ces correspondances, alors d'ailleurs, il faut que je précise déjà que cette recherche a été menée avant les grandes opérations de collecte de correspondances, et qu'aujourd'hui, si je devais refaire ce travail aujourd'hui, j'aurais accès de façon beaucoup plus élargie à toutes les correspondances déposées par les familles pendant le centenaire de la Grande Guerre. Ce travail a été mené avant. Et donc, comment est-ce que j'ai choisi ces 75 correspondances? J'ai essayé de privilégier les correspondances à deux voies, c'est-à-dire celles qui permettaient de donner accès à la fois aux combattants, mais aussi à leurs femmes, à leurs compagnes, à leurs épouses.
Parce que très souvent, ce sont les secondes qui sont perdues. On a plus souvent gardé les lettres.
Tout à fait, parce qu'on peut aisément le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, les correspondances envoyées depuis le front vers l'arrière ont beaucoup plus de facilité, de moyens d'être conservées aisément. Les correspondances qui sont envoyées de l'arrière vers le front peuvent être détruites très clairement par les combattants, et il y a moins de possibilités de conservation. Pour conserver des correspondances, il faut, les correspondances des femmes, je veux dire, il faut que les combattants aient eu, à un moment donné, conscience que ce qu'ils recevaient avait une valeur. Et dans ce cas, ils ont pu renvoyer à l'arrière leurs correspondances, qui donne un biais très important aux correspondances qui nous sont parvenues, les correspondances suivies. Ce biais, c'est que les couples auxquels moi j'ai eu accès, sont des couples qui expriment leur attachement et ont conscience de cet attachement. C'est-à-dire qu'il y a ici un biais important, et je crois que c'est important de le préciser, c'est le fait qu'en temps de paix, en général, nous avons accès à l'intimité des couples en conflit, par le biais des archives psychiatriques, judiciaires, par les jugements de divorce. Voilà. En temps de guerre, à l'inverse, nous avons accès, par ces correspondances conservées, à une autre forme d'intimité qui est l'intimité amoureuse, ou en tout cas à des formes d'attachement qui s'expriment par correspondance. Et ces épistoliers qui ont donc gardé pendant 100 ans, enfin en tout cas qui ont gardé un premier temps, et puis ensuite les descendants ont gardé également ces correspondances, et bien ces épistoliers, ils ont eu conscience de la valeur de ce qu'ils étaient en train de fabriquer, c'est-à-dire des objets, parce qu'il faut bien saisir que, puisque les correspondances sont presque quotidiennes, mais en tout cas très régulières, il y a une vraie masse par couple. Il y a parfois, ça peut être vraiment, il faut de la place en fait pour conserver ces correspondances très concrètement.
Des mâles dans
les greniers souvent qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Vous ne pouvez pas non plus échapper à la question de la franchise et de la sincérité. C'est Alain Corbin, un de nos maîtres dans l'histoire des sensibilités, qui disait qu'il ne fallait pas confondre le non-dit et le non-éprouvé, ni le dit et l'éprouvé.
C'est tout à fait vrai, et c'est une des grandes difficultés. Je pense que le premier problème lorsqu'on se plonge dans ces correspondances, c'est évidemment l'illusion de vérité, l'illusion de sincérité, et ça peut être un problème, puisque lorsqu'on lit ces correspondances, on pourrait croire que nous avons accès, ou on pourrait espérer plutôt avoir accès à des formes d'expression sincère de l'intime. Il n'en est évidemment rien. Pendant la guerre, peut-être encore moins, parce que l'écriture épistolaire en temps de guerre est une écriture sous contrainte. Sous contrainte parce que lorsque le combattant écrit et lorsque sa femme lui répond, eh bien, on est dans un contexte paroxystique d'extrême grande violence, de proximité quotidienne avec la mort. Et lorsque la mort peut surgir à n'importe quel moment, l'écriture s'en trouve entravée, ou en tout cas la grande sincérité s'en trouve entravée. Difficile en effet de dire ou de faire des reproches lorsqu'on peut imaginer, lorsqu'on imagine que la lettre que nous allons envoyer est peut-être la dernière. Et donc cette écriture-là, il me semble, est au contraire une écriture sous contrainte, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il y ait l'expression et de l'affection, de l'angoisse dans ces correspondances.
J'ai retrouvé une belle chanson de Maxime Le Forestier qui s'appelle précisément « Les lettres » et qui remonte à 1975 avec de multiples paroliers qui ramasse de façon assez efficace, je crois, le centre de ce que peut être un échange tel que celui-là. Sincère ou pas, vous nous le direz.
Août 1914, ma femme, mon amour, en automne au plus tard, je serai de retour pour fêter la victoire. Nous sommes les plus forts, couper le blé sans moi. La vache a fait le veau. Attends que je sois là pour le vendre à la fois. Le père se fait vieux. Le père est fatigué, je couperai le bois, prends soin de sa santé. Je vais changer d'adresse, n'écris plus, attends-moi, ma femme, mon amour, en automne au plus tard, je serai de retour pour fêter la tendresse. Vers 1915, mon mari, mon amour, le temps était trop long, je suis allé au bourg. Dans la vieille charrette, le veau était trop vieux, alors je l'ai vendu, et j'ai vu le vieux Jacques et je lui ai rendu le reste de nos dettes. Nous n'avons plus un sou, le père ne marche plus, je me débrouillerai et je saurai de plus en plus être économe. Mais quand tu rentreras diriger ta maison, si nous n'avons plus rien, du moins nous ne devrons plus d'argent à personne.
Cette chanson de Maxime Le Forestier s'intitule « Les lettres ». Alors Clémentine Vidal-Naquet, vous retrouvez ici un certain type de dialogue, en particulier dans les débuts de cette chanson, l'idée que ce sera court.
Oui, l'idée que ce sera court, et surtout ce que je retiens, c'est le fait que l'écriture est un des premiers gestes d'accommodement à la séparation provoquée par la guerre. C'est-à-dire que l'écriture est immédiate, dès les premiers jours de la guerre, et ici Maxime Le Forestier écrit août 1914, ma femme, mon amour, et on comprend dans les paroles qu'il s'agit là d'un paysan et qu'il pense évidemment pouvoir être de retour assez rapidement. Il fait donc ses premières recommandations.
Arrêtons-nous un instant sur la séparation. Il y a l'image de la gare que tous les contemporains ont beaucoup considérée, les journalistes, les romanciers. Les politiques ont tous prêté une grande attention à ce moment du quai, sur le quai, au revoir, avec d'ailleurs une asymétrie des larmes sur laquelle vous insistez beaucoup.
Oui, parce que j'ai lu beaucoup les journaux d'août 1914 qui décrivent la mobilisation générale. Et dans ces descriptions de mobilisation générale, ils s'arrêtent très souvent sur les couples ou sur la famille, le couple avec un enfant ou deux enfants. Et ce qu'ils disent de ces séparations m'a semblé extrêmement intéressant, parce que c'était à travers les couples qui se séparaient sur le quai de la gare ou dans les villes au moment de la mobilisation, c'était en fait la réussite de la mobilisation qu'ils essayaient de décrire. Et concernant les larmes, il m'a semblé aussi extrêmement frappant de voir comment se répartissaient les larmes entre les hommes et les femmes. Les femmes ayant le droit, parce que les seuils de pudeur sont transformés par l'entrée en guerre, ayant le droit de verser quelques larmes.
Presque le devoir.
Le devoir, presque, parce qu'il faut quand même montrer que la séparation a un coût, hein, qu'il n'est pas simple de se séparer. Et c'est bien la preuve que la mobilisation, d'ailleurs, est réussie. Donc les femmes, alors même qu'au XIXe siècle, les larmes reviennent dans les foyers, c'est-à-dire qu'en fait, on pleure, mais dans l'intimité de la demeure, eh bien là, on pleure dans la rue, mais lorsque l'on est une femme. Les hommes, eux, semblent résolus, ont les larmes qui ne doivent pas couler. Ils peuvent avoir, en revanche, montré leur émotion. Et c'est bien une répartition sexuée des rôles qui se met en place dès l'entrée en guerre et qui est visible lorsqu'on lit ces journaux à travers cette économie des larmes et cette répartition entre hommes et femmes.
Avec, en somme, un mouvement double. D'un côté, un triomphe des émotions personnelles et en même temps une dissimulation imposée au service de la sphère sociale.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on ressent quelque chose. C'est-à-dire que la séparation, nous disent les journalistes, n'a rien de facile. On est dans un contexte, par ailleurs, de mise en avant de l'idéal amoureux au sein du mariage. Et donc ces séparations des couples en août 14 interviennent dans ce contexte et doit peser, en fait, sur les mobilisés et leurs femmes. Mais la réussite de la mobilisation et la réussite à venir de la guerre, eh bien, se perçoit, selon les journalistes, par ces séparations réussies, malgré, en fait, la douleur que peuvent ressentir les uns et les autres, ou les unes et les autres.
On retrouve encore une question de temporalité. Il y a ce moment du départ, et puis tout à coup, le temps qui s'étire comme une demi-droite, sans qu'on sache quand les choses vont s'arrêter. Vous citez à un moment donné Isabelle Rivière, la sœur du grand Alain Fournier, l'auteur du Grand Monde, qui a épousé Jacques Rivière, personnalité majeure du monde littéraire en France, qui est à l'époque prisonnier en Allemagne. On est en décembre 1915 et elle écrit ceci, qui mérite d'être commenté, me semble-t-il. « Ce qu'il y a d'affreux dans le temps présent, c'est que si l'on veut garder la force de vivre, il ne faut penser ni au passé, ni au présent, ni à l'avenir. » J'étais très intéressé en vous lisant par la dialectique de l'instant immédiat, de fait, et la durée à la fois dominée et imprévisible.
Oui, elle le dit par ailleurs d'une très belle façon. C'est-à-dire que c'est le propre de l'événement, c'est de venir perturber la perception qu'on a du temps, c'est-à-dire la perception du passé, du présent et de l'avenir. Je crois que c'est un des éléments très importants à retenir, c'est que ce temps de la guerre, ce temps immédiat de la séparation, il est évidemment suivi d'un temps d'attente extrêmement long dans lequel on recompose l'imaginaire qu'on a de son passé, dans lequel on reconstruit et on réinvente un présent et dans lequel on imagine un futur qui est sans doute idéalisé par ailleurs. Donc, elle dit ici de façon extrêmement belle, par ailleurs, c'est assez particulier dans son cas, puisque son mari étant prisonnier, la correspondance n'est pas du tout celle que nous évoquions auparavant, c'est pas du tout une correspondance quotidienne. Elle attend, simplement, elle attend d'avoir des nouvelles.
La censure fonctionnant évidemment encore plus.
Bien sûr, et là il y a un rationnement de la correspondance pour les prisonniers.
L'incertitude est différente de celle qu'éprouve l'épouse d'un combattant sur le front, vivra-t-il ou non ? Est-il vivant ou non, ce prisonnier-là ?
Oui, parce que une des premières fonctions de la lettre, je l'ai dit, c'est d'être un gage de vie. Et donc, on attend avant tout la lettre, avant même la lecture de son contenu, l'objet même, avec l'écriture reconnaissable, l'adresse, l'enveloppe, avant même de l'ouvrir, signifie qu'il y a quelques jours, le soldat était vivant. Dans le cas des prisonniers, c'est un peu différent. Lorsqu'on sait que le soldat est prisonnier, parce qu'il faut préciser aussi que les femmes, avant d'avoir connaissance du fait que leur époux est fait prisonnier, elles peuvent attendre des semaines sans correspondance. Et c'est d'ailleurs un des espoirs parfois de certaines femmes, lorsqu'elles n'ont plus de correspondance, lorsque la correspondance ne parvient plus, c'est d'espérer justement que le mari ne soit pas mort, mais qu'il soit fait prisonnier, c'est-à-dire qu'il soit encore vivant.
Vous n'avez pas eu l'idée de consulter la correspondance de Charles de Gaulle à sa femme lorsqu'il était prisonnier des Allemands ?
Je n'y ai pas eu accès, oui, je n'ai pas eu l'idée, effectivement.
C'était publié, c'est des suggestions modestes que
je vous fais. Voilà, mais je vous remercie.
D'autant plus que vous traitez assez longuement du cas du général Pétain.
Oui. Alors oui, le cas du général Pétain m'a intéressé parce que c'est une correspondance donc échangée entre le général Pétain et celle qui n'est pas encore sa femme, Jenny Ardon, femme divorcée, mère d'un enfant, avec qui il entretient une relation amoureuse, notamment pendant la bataille de Verdun, c'est-à-dire que ces échanges épistolaires... Alors, nous n'avons que les correspondances de Pétain et non pas les réponses de Jenny Ardon, malheureusement. Mais ce qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est qu'au moment où il a un rôle absolument majeur dans la très célèbre bataille de Verdun, eh bien, il écrit des correspondances, il écrit des lettres à Eugénie Ardon et se croise ici... le secret d'État, c'est-à-dire le secret, il ne peut absolument rien dire de ce qu'il appelle les affaires, il s'agit ici de la bataille de Verdun, et le secret amoureux, puisqu'il souhaite que cette relation demeure secrète.
Vous dites qu'il l'épousera plus tard. Ça nous conduit à une réflexion sur l'évolution du mariage, pendant toute cette période, la place de l'institution maritale dans votre réflexion, Clémentine Vidal-Naquet, sur ces couples en guerre, fragiles, intenses, dont nous parlons ce matin.
Oui, l'institution maritale est évidemment bouleversée par l'entrée en guerre, d'abord, puisque la séparation des couples, il faut ici préciser peut-être que j'estime à environ 5 millions de couples séparés pendant toute la durée de la guerre. Et là, je ne compte évidemment que les couples mariés. Mais il y a aussi tous les autres, ceux qui sont concubins, ceux qui sont fiancés, et qui, au moment de l'entrée en guerre, eh bien, pour tous ceux qui prévoyaient, par exemple, de se marier en août 14, on imagine le bouleversement qu'a pu être l'annonce de la mobilisation générale. Et le résultat, c'est évidemment une baisse très importante du nombre des mariages, d'abord en août 14 et ensuite en septembre 14 surtout, puisque la mobilisation se fait de façon échelonnée, donc certains mariages ont lieu en août 1914 malgré tout, et ensuite il y aurait, on estime, à 800 000 mariages non conclus pendant la guerre, pendant les 4 années de guerre, ce qui montre bien le bouleversement en fait de cette institution. Ceci dit,
avec en sens inverse, ceux qui se marient qui ne l'auraient pas fait à cause des enfants et pour assurer.
Tout à fait. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir que en août 1914, j'ai dit le premier mouvement, c'est une baisse du nombre de mariages, mais il y a notamment à Paris un phénomène tout à fait inverse, qui sont ces mariages conclus de façon précipitée, très rapide, parfois par des couples qui n'avaient pas prévu de se marier, ou qui en tout cas ne prévoyaient pas de se marier aussi vite. Et une étude un peu plus précise m'a permis de voir que ces couples mariés en août 1914 étaient en fait des couples qui vivaient en concubinage depuis déjà plusieurs années, c'est-à-dire que l'âge de ceux qui se marient en août 14 est situé entre 30 et 39 ans, ce qui n'est pas si jeune, et qu'ils avaient par ailleurs ensemble déjà des enfants, le mariage permettant non seulement de créer potentiellement des futures veuves, mais aussi des futurs orphelins. Et ce qui me semble central dans ces mariages d'août 14, c'est que c'est bien le signe qu'il y a là une prise en compte de la possibilité de la mort dès l'entrée en guerre et avant même les premières hécatombes.
Avec des mariages à distance même.
Alors les mariages à distance, ils ont lieu, une loi est votée effectivement en avril 1915, 9 mois exactement après le début de la guerre, ce qui n'est sans doute pas complètement anodin. Et ces mariages par procuration autorisent les combattants à se marier alors même qu'ils sont sur le front. Ils sont remplacés au moment du mariage par un fondé de procuration qui dit le oui à la place du mari. Des mariages donc cocasses, notamment parce que en avril 1915, peu après arrivent les permissions et que donc certains soldats assistent à leur propre mariage en étant dans la salle et ne pouvant, s'ils souhaitent se marier, c'est tellement compliqué d'obtenir les autorisations, la date, etc. Ils assistent à leur propre mariage sans pouvoir eux-mêmes prononcer le oui devant l'officier d'état civil.
Ce qui est un peu farfelu, même dans ces périodes tragiques.
Ce qui est tout à fait farfelu, qui est critiqué et beaucoup rit, en fait, dans Bécassine, par exemple, se marie par procuration. On a un très drôle moment, mais ces mariages, ils n'ont donc pas eu beaucoup de succès, ces mariages par procuration.
La petite Bretonne qui a eu tant de succès et qui s'en va en guerre à ce moment-là. Ouais. Si on élargit la focale, Clémentine Vidal-Lacaz, est-ce que vous diriez que cette guerre, du point de vue de l'institution du mariage, accélère des tendances qui sont antérieures et qui fonctionnent de façon plus profonde, mariage par rapport au mariage du 19e siècle
contenu. Oui, je pense qu'on peut dire cela. Il faut rappeler déjà que lorsqu'éclate la guerre en 1914, nous sommes dans un moment de fragilisation, selon les contemporains d'avant-guerre, de fragilisation de l'institution maritale. Fragilisation qui serait, on appelle ça même la crise du mariage, une crise du mariage qui serait liée à l'augmentation des divorces, en fait à la possibilité déjà des divorces.
Depuis la loi Naquet de 1884.
Oui, et depuis cette loi Naquet de 1884, il y a une possibilité donc de divorcer, une augmentation progressive, lente mais progressive des divorces. Il y a également une baisse de la natalité qui préoccupe beaucoup. Et donc les contemporains d'avant-guerre imaginent que nous sommes face à une crise du mariage et ils imaginent des solutions. Et notamment, ils pensent qu'une des solutions, des réponses possibles, ce serait par exemple, assez farfelu également, proposition faite en 1904 d'intégrer l'amour dans le code civil. Il faudrait donc se promettre amour, chose évidemment impossible et donc refusée.
Si vous le dites.
En tout cas, difficile de prouver le contraire. Et donc, cette proposition est évidemment refusée. Mais on est donc dans ce moment de réflexion, en tout cas, sur ce que doit être le mariage. Les correspondances que j'ai évoquées tout à l'heure mettent en avant l'importance de l'échange et du consentement au sein des couples qui s'écrivent, qui expriment leur affection, qui expriment leur désaccord également parfois. Et donc, il y a ici une mise en évidence d'une France sentimentale dans laquelle la norme serait l'amour. Chose tout à fait illusoire, hein, ceci dit. Mais effectivement, la Grande Guerre va transformer certains éléments et notamment va donner une visibilité nouvelle au concubinage, notamment aux unions libres, puisque certaines lois du temps de la guerre reconnaissent les concubines qui peuvent avoir certains droits. J'en donne un exemple qui est extrêmement important. Les concubines ont le droit à l'allocation réservée aux familles des combattants, qui est donc d'un franc 25 par famille et 50 centimes par enfant. Et cette allocation, elle n'est pas réservée, on dit souvent à mal à propos qu'il s'agit de l'allocation aux femmes démobilisées. En fait, c'est l'allocation aux familles démobilisées. Et dans ces familles sont inclus bien sûr les femmes légitimes, hein, les épouses, mais aussi les concubines qui sont donc reconnues en tant que telles comme membres d'un foyer.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Amour ou pas, il faut faire entendre à nouveau une voix d'un couple. Alors, j'ai choisi parmi l'immensité de ce que vous proposez dans votre livre, Clémentine Vidal-Naquet, j'ai choisi cet échange entre Georges Duhamel, l'écrivain fameux, plus fameux encore à l'époque, et sa femme Blanche. La lecture de ces lettres des deux époux Duhamel est due à Julie Brochamp et Massimo Bellini. C'est un extrait de l'émission de Blandine Masson sur France Culture, le 11 janvier 1998, l'émission qui s'intitulait « Correspondance de guerre » précisément.
Le 4 août. Mon Georges adoré. J'ai reçu ce matin, comme chaque jour, bien régulièrement ta lettre chérie. J'ai presque honte de recevoir si régulièrement tes lettres, mon amour. S'il y a du désordre dans celles que je t'envoie. Pourtant, je fais en sorte de les mettre tôt quand elles partent d'ici et Jacques les met à Paris dès son arrivée quand il les emporte. Je suis heureuse que tu penses aussi à nos premiers jours. J'y pense tellement assidûment. Les lettres que j'ai relues la veille de mon départ et surtout ton portrait par Mann qui est toujours sous mes yeux et qui me rappelle tant le Georges de ce temps-là en sont les causes. Au revoir, mon amour adoré. Je t'embrasse de toutes mes forces et je t'aime de la même manière, ton Blanc.
Mardi 20 juillet. Mon cher petit blanc. J'ai été réveillé à 2 heures du matin par l'arrivée d'un blessé grave, un malheureux blessé au ventre et à qui il n'y avait pas grand-chose à faire, que des petits soins en attendant la mort. Ce matin, j'ai trouvé l'aumônier auprès de lui. C'est son droit et son devoir. Le blessé m'ayant paru impressionné par la communion, j'en ai parlé au curé avec franchise et peut-être aussi avec une vivacité émue. Aussitôt, il a montré les dents, entrant dans une colère ignoble, allant jusqu'à proférer des menaces pour le cas où on l'empêcherait de faire son ministère, ainsi qu'il lui est prescrit. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu se dresser devant moi le spectre du cléricalisme, qui pourtant m'a toujours laissé bien tranquille. J'ai tenu bon, mais sans aggraver la situation, car il faut penser à l'union sacrée. Mais cela m'a entrouvert un horizon nouveau. À coup sûr, ce prêtre-ci est exceptionnellement intolérant. Mais je pensais que la guerre n'arrangera pas les choses, et qu'elle peut, au contraire, allumer de nouvelles discordes. À demain, mon cher Blanc. Que ne puis-je aussi lire le cher roman de nos lettres ? Je t'embrasse mille fois, ton Georges.
Le cher roman de nos lettres. On est sensible, je pense que vous l'êtes peut-être aussi, Clémentine Vidal-Naquet, au désir qu'a Georges Duhamel de parler politique au sens le plus large. C'est le choc, en somme, entre 1905, la loi sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, et puis 1914, l'Union sacrée, c'est sa formule.
Oui, tout à fait, il le réutilise et c'est très intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant dans ces deux lettres qui viennent d'être lues, c'est non seulement la quotidienneté, mais aussi le partage au quotidien de toutes les préoccupations. Georges Duhamel étant en train de soigner des blessés, évoquant cette loi de séparation, enfin, étant en fait dans un échange quotidien de discussion avec, certes illusoire par écrit, mais est réel dans son cas,
il est médecin,
bien sûr, avec sa femme Blanche, avec qui il échange une très très impressionnante correspondance. Leurs lettres sont extrêmement longues et très fréquentes, c'est-à-dire parfois plus d'une lettre par jour. Donc ils s'écrivent de façon assez exceptionnelle, hein, l'un et l'autre. Bon, ce sont des épistoliers qui ont l'habitude d'écrire.
À la différence de ceux qui ont, comme vous le disiez tout à l'heure, écrit pour la première fois et dont les lettres sont également intéressantes parce qu'on y voit assez souvent se refléter l'éducation due à Jules Ferry. Par exemple, à propos des Allemands, les comparaisons avec les Huns, Attila, c'est tiré du Petit Lavis, qui ont les cheveux pommadés de vieux beurre et qui sont d'épouvantables personnages. Les Allemands sont pires que les Huns. C'est une curiosité de retrouver cette trace, cette empreinte.
Mais cette empreinte est très importante, c'est-à-dire que c'est celle qui permet aussi de rendre possible l'existence même de ces sources et de cette communication entre le front et l'arrière, même pour des personnes qui n'écrivent absolument pas au quotidien et dont ce n'est pas la pratique. C'est-à-dire qu'une des particularités de ce moment de la Grande Guerre pour les correspondants, c'est le premier moment où l'on mobilise massivement les hommes, mais des hommes et des femmes qui, ne connaissant peut-être que les rudiments, savent lire et écrire. Et c'est ce qui fait que toutes les couches sociales de la population, toutes les classes sociales, écrivent, alors avec plus ou moins de difficultés, avec plus ou moins d'aisance, mais tout le monde écrit, et ce qui explique d'ailleurs cette inflation incroyable du nombre de lettres dès le début de la Grande Guerre.
Non sans que s'exprime assez fréquemment une inquiétude par rapport à l'émancipation possible des femmes. Les combattants sont attendris par la grève des midinettes, mais à l'arrière, on s'en inquiète davantage. Le contrôle social des femmes est très présent.
Oui, en tout cas, le contrôle, alors, ce que l'on perçoit dans les correspondances, c'est qu'il ne s'agit jamais, puisque je rappelle qu'il s'agit là de correspondances de couples qui éprouvent de l'affection et pour qui, en gros, tout va plutôt bien malgré la guerre. En tout cas, leur relation tient le choc. Ce contrôle, il s'exprime sur les autres femmes ou les femmes de mauvaise vie que les hommes ou que les femmes peuvent décrire. Hein. Les mauvaises filles, ce sont toujours les autres, ce ne sont jamais les épouses à qui on écrit. Ce contrôle social, il se perçoit autrement dans d'autres types de sources, notamment les demandes d'allocation aux femmes par la loi d'août 1914 qui autorise et qui donne une aide, une allocation aux familles démobilisées. Pour obtenir cette aide, il faut en faire la demande. Et pour obtenir cette aide, il faut une enquête menée qui vérifie que ces familles sont bien nécessiteuses et que le soutien du foyer est bien sous les drapeaux, mais aussi que sa moralité est tout à fait bonne. Et donc, il y a un contrôle qui s'effectue par ce biais.
Et d'ailleurs, il ne manque pas des pères lapidaires pour s'inquiéter de cette évolution. Je relève, par exemple, vous parlez du système des allocations, je relève ce qu'un procureur de la République, en 1917, peut écrire en regrettant que la guerre continue à exercer des ravages de plus en plus grands dans la population féminine, où l'on voit se développer, à la faveur de l'absence des maris, des pères de famille et du système des allocations, un profond dérèglement et des habitudes néfastes d'oisiveté et d'intempérance. Je ne sais pas si vous pourriez appliquer cela à votre très chère Césarine Pachou, dont vous faites une de vos héroïnes, si je puis dire, qui est, alors là, non plus du côté des bourgeois comme les Duhamel, mais du côté
du
monde paysan, qui à l'époque constitue 50% de la population française. Je vais vous faire écouter sa lettre à son mari. C'est un extrait de LSD, la série documentaire de Perrine Kervran et Julie Navarre, en date d'octobre 2022.
Bien cher Joseph, un long mois s'est écoulé depuis qu'on a pu causer ensemble. Que de choses à se dire, que de conseils à te demander. Te dire d'abord qu'il y a 15 jours, les cochons s'étaient bien vendus à la foire de Bourg, à 50 francs. Je pensais que j'aurais meilleur compte d'engraisser les nôtres. J'ai donc acheté 100 kilos de farine de maïs et que ça serait le plus d'abonde. Et je leur ferai manger les pommes de terre qui veulent pourrir. Mais je n'ai pas réussi mercredi. Ils se sont vendus les plus beaux 36 francs. Le père maréchal est venu aussi cribler le blé pour faire les semences. Mais il est encore bien sale. Le cousin m'a dit qu'il en aurait encore pour nous. Je l'ai déjà retenu pour les semailles si tu n'étais pas rentré. Je fais tout comme je pense bien faire. Mais je voudrais que tu me dises ce que tu penses, si mes idées sont bonnes. Maintenant, je peux te dire que tous les parents et voisins sont en bonne santé. En attendant le plaisir de recevoir ta réponse, reçois mes amitiés sincères. Je pense à toi. Césarine.
Votre Césarine, Clémentine Vidal-Naquet, pourquoi l'aimez-vous tant ?
Je l'aime beaucoup, Césarine, parce que la lettre que nous venons d'entendre, c'est sa toute première lettre, et vous aurez peut-être remarqué qu'elle ne date pas d'août 1914, mais de début septembre 1914. Cela fait donc un mois qu'elle est séparée de son mari, un mois qu'elle travaille de façon extrêmement intense, et elle éprouve ce besoin, au bout d'un mois, chose rare, d'écrire à son mari, chose rare puisque presque tous les combattants, dès qu'ils le peuvent, parfois même dès le train, et leurs épouses également, écrivent des lettres. Elle n'aura pas, elle est primo-écrivante, elle ne sait pas bien écrire, ou en tout cas elle ne sait pas bien exprimer, elle sait très bien écrire, mais elle ne sait pas bien exprimer ses sentiments.
Mes amitiés, dit-elle.
Mes amitiés, dit-elle, et je pense à toi. Et ce « je pense à toi » a une valeur, à mes yeux, très grande, parce qu'elle dit parfois beaucoup plus en très peu de mots que des descriptions un peu surfaites. Vous évoquiez tout à l'heure l'apprentissage scolaire, il y a aussi l'influence des romans, l'influence des poètes qui uniformisent aussi le vocabulaire amoureux. Césarine n'a pas ce bagage-là, elle décrit son quotidien, elle décrit l'essentiel de sa vie, c'est-à-dire son travail, la vente de ses bêtes, quelque chose qui, effectivement, est absolument essentiel, absolument fondamental. Et Césarine, je suis très attachée à elle parce que, après cette première lettre assez, dans laquelle prime le quotidien et ce « je pense à toi », elle apprend l'introspection, elle raconte ses rêves, elle raconte ses insatisfactions, elle découvre l'écriture à la faveur de la guerre et ses lettres m'émeuvent particulièrement.
Comment réagit le mari ?
Le mari comprend. Il comprend cela. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il l'écrit de façon beaucoup moins... je pense qu'il découvre... On a l'impression qu'il découvre moins cette introspection, mais il comprend la valeur de ses lettres, puisque si nous avons les lettres de Césarine, c'est parce qu'il les a renvoyées à l'arrière. Et il lui demande, il lui renvoie, et elle est étonnée. Elle dit, mais pourquoi est-ce que tu me renvoies ces lettres ? Donc, elle découvre l'introspection, mais n'a pas conscience de la valeur de ce paquet de correspondances auquel moi, aujourd'hui, je tiens tant...
Vous y tenez beaucoup, et évidemment, les destinataires y tenaient énormément. C'est un autre aspect très fréquent dans les lettres. Tu ne m'écris pas assez, je m'inquiète. Vous citez par exemple les amours de Maurice Chevalier, on est du côté de la notoriété, et de Mistinguette, on y est toujours, qui lui écrivait, lorsqu'il était prisonnier lui-même, en Allemagne, lui écrivait « Je peux bien te dire que vraiment j'ai eu beaucoup, beaucoup de chagrin, j'en avais le trognon complètement tourné. Pense, ma gosse, j'ai été un mois et demi sans nouvelles de toi, je devenais fou petit à petit, je te jure. Quoi, si je ne t'ai plus, qu'est-ce que tu veux que le reste du monde me foute ?» Fin de citation, Maurice Chevalier.
Oui, Mistinguette montre par là son désintérêt, au fond, puisqu'elle écrit plusieurs lettres en même temps qu'elle antidate, pour lui faire croire qu'elle lui écrit régulièrement.
Et il s'en aperçoit.
Il s'en aperçoit, et cela permet de vraiment vérifier le fait que la correspondance est une marque du renouvellement de l'attachement. Donc l'absence de lettres est, de la même façon, un signe de détachement très, très, très visible.
Avec toujours en arrière-plan l'angoisse de l'infidélité. Nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est un élément qui est très présent pendant la guerre et qui va ressurgir au moment du retour, dont il faut maintenant que nous parlions, avec en arrière-plan peut-être le fameux, très fameux roman de Raymond Radiguet, l'homme qui a été fauché si tôt par la mort, mais dont Le diable au corps a été un succès immense, précisément parce qu'il touche à cette inquiétude.
Tout à fait. La peur de l'adultère est une constante. Alors, on a parlé tout à l'heure des allocations, et vous avez évoqué le fait que ces femmes profitaient de cet argent qu'elles pouvaient toucher. Alors, en fait, ces femmes, il faut quand même préciser que ce qui prime pour elles, c'est le poids immense des responsabilités, l'écrasement d'un quotidien dans les champs, les responsabilités de la famille. Mais effectivement, cette solitude nouvelle n'est pas sans inquiéter les hommes qui redoutent très très fortement l'adultère. Alors dans les correspondances, c'est toujours, encore une fois, l'adultère des autres. Il n'est jamais question d'un adultère avéré dans les correspondances que j'ai pu étudier, mais d'autres sources permettent de révéler ces peurs et peut-être cette réalité de l'adultère féminin plus important par l'absence des hommes.
Marthe, c'est dans Le diable au corps, la femme d'un soldat qui devient la maîtresse du narrateur.
Tout à fait.
Et donc cela nous conduit, pour finir cette conversation, Clémentine Vidal-Naquet, sur les couples en guerre, fragiles, intenses. Il faut que nous concentrions un instant notre attention sur la question du retour, les retrouvailles. Henri Barbus, l'auteur du fameux roman Le Feu, une des rares œuvres littéraires qui a conquis vraiment l'adhésion des poilus, des combattants. Henri Barbus écrit dès le 1er août 1915 à son épouse en évoquant cela. C'est une lecture de Nathalie Canoui dans La fabrique de l'histoire de notre cher Emmanuel Laurentin en novembre 2014. Henri Barbus, ses inquiétudes, l'évocation de ce qui risque de se passer.
L'interminable attente.
Les mois qui succèdent aux mois sont mélancoliques à supporter. Je me figure même que c'est trop de séparations, trop de vies séparées pour beaucoup, et qu'il y aura de petites séparations provenant de ceux qu'on ne se retrouvera pas dans certains cas. La longueur de la guerre apporte ce résultat sentimental qui n'apparaissait pas dès l'abord. Nous ne sommes pas ainsi, nous. Mais les autres subissent une usure plus grande et se détachent en réalité d'être trop longtemps séparés matériellement. Je sens mes camarades de plus en plus libérés de leurs attaches anciennes. Ils se renouvellent malgré eux, et parfois même sans s'en rendre compte. Il est juste de dire que pour d'autres, c'est tout à fait le contraire.
Alors, Clémentine Vidal-Naquet, une certaine lucidité chez ce Barbus-là.
Une grande lucidité, puisqu'il évoque ce double mouvement, à la fois la séparation possible des quotidiens, et puis pour d'autres, l'inverse, dit-il, c'est-à-dire le rapprochement, ici, forcément par correspondance. Parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que, avant d'évoquer les retrouvailles parfois problématiques, les correspondances auront pu aussi permettre d'exprimer des sentiments qu'on n'exprimait pas auparavant, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'intimité ou du désir sexuel, tout à fait neuf également pour ces épistoliers. Mais la très longue durée de la guerre aura pu aussi essouffler ce pacte épistolaire et séparer, parce que les quotidiens vécus à l'arrière et sur le front sont évidemment irrémédiablement différents. Et donc les retrouvailles, on le sait, ne sont pas toujours extrêmement simples entre les combattants et leurs épouses.
Nous n'avons pas évoqué la frustration sexuelle, qui est évidemment très, très présente. Est-ce que ces lettres marquent de l'érotisme, est-ce qu'elles sont sincères ou toujours très pudiques?
Cela dépend, à dire vrai. La grande nouveauté de ce premier conflit mondial, c'est le fait que les relations conjugales n'existant que par correspondance, eh bien, pour la première fois à cette échelle, on est contraint d'exprimer le désir sexuel par écrit. Et ce désir sexuel, il peut s'exprimer de façon extrêmement pudique ou s'exprimer de façon tout à fait crue, puisque, par exemple, Constant et Gabriel M. Sont deux époux qui échangent une correspondance érotique, proprement érotique, pendant la guerre. C'est une correspondance qui a été retrouvée, d'autres sans doute existent, mais ces correspondances, on y a moins accès, parce que les correspondants, parfois, les gardent par devers eux-mêmes.
Ce contraste entre ce qui est dit et ce qui est vécu fait penser au fameux film de Lubitsch, vous savez, qui s'appelait The Shop Around the Corner, et il montre un couple qui se détruit, qui se déteste dans la réalité et qui va s'adorer par la voie postale.
Ce à quoi me fait penser cela, c'est le fait qu'il y a une forme d'illusion épistolaire. C'est-à-dire qu'il est toujours plus aisé d'exprimer ses sentiments par correspondance que de les exprimer de vive voix. Et de la même façon, on ne peut pas savoir en historien, en historienne, si les couples ressentent véritablement ce qu'ils écrivent, mais on peut imaginer que peu à peu, l'écriture étant performative, ils ressentent ce qu'ils écrivent finalement.
Il reste qu'on observe qu'après le retour, il y a beaucoup de divorces. Après 5 ans, les femmes ont été habituées, pour beaucoup d'entre elles, à gouverner la maison, ne supportent pas le retour de l'homme. L'incompréhension est très souvent présente.
Alors oui, mais les divorces restent une donnée extrêmement marginale, en fait. Il y a un phénomène de rattrapage. Avant la Grande Guerre, en 1913, il y a 15 000 divorces environ qui sont prononcés en France. Après la guerre, 1920, nous sommes à 30 000. Alors vous allez me dire, on double le nombre de divorces, on pourrait parler d'une explosion. Ceci dit, ça reste une donnée très marginale. Et dès le milieu des années 20, la progression, qui est constante depuis la loi Naquet de 1884, reprend un rythme tout à fait normal. Donc c'est plus un phénomène de rattrapage des divorces qui n'ont pas pu avoir lieu, alors même qu'on a mis en place en 1916 le divorce par procuration. Les législateurs mettent en place le divorce par procuration en 1916 pour permettre aux mobilisés de divorcer en cas d'adultère notamment, hein, de pouvoir donc ne pas créer des futurs pensionnaires de guerre qui auraient trompé leur mobilisé, leur mari mobilisé. Après la guerre, ces divorces, en fait cette loi du divorce par procuration n'a pas été très suivie, et donc les divorces d'après-guerre, c'est un phénomène de rattrapage qui explique cette augmentation, mais en fait, on ne sait presque rien sur les retrouvailles quotidiennes.
Il n'y a plus de lettres.
Il n'y a plus de lettres. Donc il n'y a plus la source première qui nous permettait d'accéder à ce quotidien amoureux, à ce quotidien conjugal. Et les retrouvailles, sur les retrouvailles réelles des couples, on ne sait que très peu de choses, finalement.
Mais il y a des lettres de délation. C'est un autre type de correspondance qui abonde. Vous en avez retrouvé beaucoup.
Oui, j'en ai retrouvé beaucoup, notamment concernant les femmes qui demandaient l'allocation en tant que famille de mobilisés, et il y a énormément de lettres de délation qui les accusent d'être des femmes de mauvaise vie, qui accusent certaines femmes de profiter de l'absence du mari pour toucher l'allocation, tromper le mari, etc. Mais ce sont aussi des fantasmes qui s'expriment. Difficile finalement de savoir ce qui est de l'ordre de la réalité et de l'ordre du fantasme, justement.
Mais le fantasme, c'est votre rencontre quotidienne dans vos travaux, Clémentine Vidal-Naquet.
Oui, parce que en fait, c'est une construction. Ces correspondances conjugales du temps de la guerre, c'est une invention. Ces correspondants, ils inventent en fait leur relation. Ils réinventent leur passé. Ils réinventent ou ils essayent de reconstruire ou de construire une relation quotidienne, alors même qu'ils ne partagent plus de quotidien. et ils imaginent ce qu'ils vont retrouver, toujours un futur. C'est très intéressant de voir à quel point ils imaginent l'après, comment ils espèrent le retour, qui est toujours un retour tout à fait idéalisé, comme
l'attente,
si la guerre,
l'attente.
Voilà, comme si la guerre pouvait être effacée, comme si la guerre pouvait ne pas avoir eu de conséquences. Et l'un des fantasmes du lendemain de la guerre, c'est parfois très simple, c'est de se remettre à retravailler ou à découvrir les enfants qu'on n'a pas vu grandir. C'est relire ensemble les volumineuses correspondances, échanger. Ou c'est nouvel idéal du temps de la guerre, c'est de pouvoir vieillir ensemble. La vieillesse devient un idéal, en fait, pendant la Grande Guerre. Et certains imaginent avoir 98, 99 ans et relire ensemble leur correspondance du temps de la guerre.
Merci, merci beaucoup de nous avoir restitué la diversité de ces sensibilités, de ces émotions collectives et individuelles. Vous avez placé votre livre, Clémentine Villalnaquet, sous les auspices de Lucien Febvre, puisque vous avez choisi un très bel épigraphe à l'orée de votre livre. Le vrai, c'est que prétendre reconstituer la vie affective d'une époque donnée, c'est une tâche à la fois extrêmement séduisante et affreusement difficile. L'historien n'a pas le droit de déserter. Vous n'avez pas déserté et on vous en sait gré.
Merci.
Votre livre majeur, celui qui a fondé cette émission, s'appelle « Couple dans la Grande Guerre » avec comme sous-titre « Le tragique et l'ordinaire du lien conjugal » qui est paru une première fois aux Belles Lettres en 2014 et qui a été récemment réédité. Vous prévoyez d'ailleurs une édition de poche en septembre prochain à La Découverte. Vous avez donné un très beau volume de la collection « Bouquins » consacré aux correspondances conjugales entre 1914 et 1918 dans l'intimité de la Grande Guerre. C'est une édition de 2014. Je voudrais également mettre en lumière la revue que vous avez fondée, qui est une très belle revue qui s'appelle Sensibilité, histoire, critique et sciences sociales, parue chez la très vaillante éditrice de Anna Mozart. Parlez-nous de cette revue.
Oui, c'est une revue qui a été créée en 2016 et qui propose de placer les sensibilités, pas seulement d'ailleurs au cœur de l'histoire, mais au cœur des sciences sociales. Et c'est une traversée par le sensible de différentes thématiques. C'est une revue thématique qui traverse à la fois le thème comme l'argent, l'intime, la mort, les paroxysmes, la violence, le charisme.
Tout ce que nous avons rencontré aujourd'hui dans cette émission, en somme.
Tout à fait.
Vous projetez un livre, je l'annonce déjà, l'impatience sera nourrie de l'espérance, apparaître en septembre dans la collection À la source, que vous dirigez, également à La Découverte. Un voyage de noces ?
Oui, c'est un voyage de noces qui a lieu dans les tranchées et l'ouvrage s'appelle Noces de cendres, un voyage dans les ruines de la Grande Guerre.
Vous pourrez trouver une bibliographie naturellement plus complète sur notre site. Vous le savez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission.
C'est arrivé au milieu des plaines, ils ont tiré sans discontinuer. Lui, il a pris un éclat et les premières salves, il est retombé dans la tranchée. Oui, madame, je sais qu'on a dû vous prévenir, le courrier de l'état-major a dû vous parvenir. Moi, madame, j'étais comme son frère à ce martyr, alors il fallait bien que je vous écrive, j'aurais tellement voulu qu'il sourive. Il m'avait dit qu'il vous aimait très fort, ça serait vous de la vie à la mort. Vous étiez belle, il vous aimerait toujours. C'était une grande histoire d'amour. En cet hiver de 1915, peut-être la guerre va s'arrêter. Il serait retourné alors dans votre village pour fêter l'arrêt de ce drame carnassier.
Mais il n'en sera... Et avec en arrière-fond une belle chanson de François Hadji Lazaro, une chanson de 2006. En cet hiver de 1915, il vous aimait très fort. Annonce de la mort d'un soldat à l'épouse de celui-ci. Je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Maï Tran à la prise de son, avec Keating Wong à la discothèque, Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et pour la documentation, Eva Karagatchev.
Madame, surtout ne pleurez pas, il vous regarde. puis l'au-delà. Il m'avait dit qu'il vous aimait très fort, que ça serait vous de la vie à mort, que vous étiez belle, qu'il vous aimerait toujours, que c'était une grande histoire d'amour.